Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, nous sommes le lundi 23 mars 2026. Vous écoutez l'émission d'information locale de Syllab et vous avez bien raison. Il y a plein de jeux concours en ce moment, il faut que je fasse le point. Je commence par le festival Mythos qui a lieu du 3 au 12 avril prochain. Le samedi 4 avril se tiendra le concert d'Asfar Shamsi, Ino Casablanca et Yoa au Cabaret Botanique. Vous pouvez gagner une place, il suffit de rentrer le bon mot de passe sur c-lab.fr section concours. Le mot de passe, c'est CD, car c'est en écoutant ce débat de la FNAC qu'Asfar Shamsi est devenue l'artiste qu'elle est aujourd'hui. Le vendredi 10 avril, toujours au Cabaret Botanique, ce sera au tour de Bonne Nuit NTO et LB, aka La Batte, de jouer. Là encore, on vous propose une place à gagner avec le mot de passe Mélatonie. Ben oui, c'est Bonne Nuit, la tête d'affiche. Et puis si vous êtes plutôt théâtre, pas de problème, on vous propose aussi de passer une soirée au TNB pour le spectacle Monarque de la compagnie Bloc Opératoire. Ça, c'est le mercredi 8 avril. Et là encore, mot de passe pour gagner, papillon comme le monarque. Autre chance de gagner une place de spectacle, cette fois c'est au Triangle que ça se passe. Pourquoi ne pas aller voir Tendre Carcasse? C'est le mercredi 8 avril prochain, c'est à la Cité de la Danse Rennaise, dans le quartier du Blône. Au plateau, un chœur de 4 jeunes interprètes conjuguant mots et gestes. Confidence intime aux frontières de l'autobiographie et de la fiction. Elles et ils se racontent, interrogent les injonctions à plaire et les assignations. Les voix s'effacent peu à peu dans les gestes. Le corps prend le pouvoir sur les mots et la danse, la fête, la trance techno ouvre la voie vers une émancipation à l'énergie festive et collective. Le mot de passe pour gagner votre place, Marseille. C'est la ville de la compagnie F qui sera sur scène. Et puis toujours en ligne, le concours du festival Douinit. On vous offre non pas une, mais bien deux places pour le concert de Marcellus Pittman, Filsan Even et Yann Poleka. C'est au BAM ce samedi. Mot de passe Détroit, la ville de la tête d'affiche de l'événement. Pour jouer et pour gagner, rendez-vous sur c-lab.fr. Et tout de suite, c'est le flash d'Anaé, lu par Eva, la faute à la SNCF.
Les États-Unis temporisent dans le conflit avec l'Iran. Le président Donald Trump a annoncé en début d'après-midi un report de 5 jours de toute frappe visant des infrastructures énergétiques iraniennes. Il évoque des échanges très positifs et productifs avec Téhéran qui se poursuivront dans la semaine. Cependant, Téhéran nie toute négociation avec les États-Unis. Ces déclarations ont donc provoqué différentes réactions de la part des marchés avec une baisse des prix du pétrole. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur sera appliqué provisoirement dès le 1er mai, annonce la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il concernera notamment les échanges agricoles et industriels entre l'Europe et l'Amérique du Sud. C'est une nouvelle étape commerciale qui est franchie. Mais cet accord suscite des réactions en France, notamment chez certains eurodéputés et la ministre française de l'Agriculture, Annie Genevard, qui dénonce une application provisoire jugée précipitée. Plusieurs États membres appellent ainsi à la vigilance sur les conséquences économiques qui pourraient en découler, et la Commission, quant à elle, défend son choix en précisant que cela n'est que provisoire et que des dialogues sont à poursuivre. Hier, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin est décédé à l'âge de 88 ans. Figure majeure du PS, Parti Socialiste, qui avait mis en place plusieurs réformes sociales telles que la loi sur les 35 heures, la couverture maladie universelle et le PACS, sont sous la présidence de Jacques Chirac de 1997 à 2002. Le Parti Socialiste demande à ce jour qu'un hommage national lui soit rendu, saluant son engagement et son exemplarité en politique. Olivier Faure et François Hollande ont exprimé leur profonde tristesse. Le décès de cet homme politique d'envergure survient à l'issue d'un épisode important dans la vie politique française. Pas de grande tendance à l'issue des élections municipales. Hier, le deuxième tour a provoqué de grands changements localement, mais aucune grande vague nationale n'est à observer, Héloïse.
Le Premier ministre lui-même le reconnaît et va, au global, les urnes n'ont sacré personne, selon Sébastien Lecornu, dans une lettre adressée au maire de France. La gauche conserve les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille. À Paris, on note la défaite de Rachida Dati, candidate Les Républicains et ex-ministre de la Culture, avec 41,5% des voix face à Emmanuel Grégoire, candidat du Parti Socialiste, des Écologistes et du Parti Communiste à 50,5%. La candidate La France Insoumise, Sophia Chikurou, recueille seulement 7,9% des voix. À Lyon, Grégory Doucet, à la tête d'une coalition de gauche ayant fait alliance avec LFI, bat Jean-Michel Aulas, ancien patron de l'Olympique Lyonnais, adoubé par la droite et le centre, avec 50,6% contre 49,3%. C'était serré. Jean-Michel Aulas qui annonce un recours et dénonce des irrégularités. À Marseille, le maire sortant Benoît Payan remporte largement le second tour avec 54,3% contre le candidat Rassemblement National Franck Alizio qui obtient quand même 40,3% des voix.
L'extrême droite qui s'étend, elle, dans les villes moyennes, Héloïse.
Effectivement, Eva, l'extrême droite est en tête à Nice avec Éric Ciotti, président de l'UDR, Union des droites pour la République et allié du RN. Toujours dans le sud, le parti progresse aussi dans des villes moyennes comme Agde, Carcassonne, Tarascon. Dans le nord, le RN s'impose à Liévin, Saint-Avold, Montargis et La Flèche. L'extrême droite échoue ailleurs, revers à Toulon, Nîmes et surtout Marseille, on l'a dit. Un bilan en demi-teinte donc, mais qui n'empêche pas Marine Le Pen de parler dans un tweet d'une, je cite, « immense victoire » et de la confirmation de la stratégie d'implantation locale du RN.
Bilan mitigé pour la France Insoumise également, Héloïse.
Eh oui, le parti de Jean-Luc Mélenchon peut revendiquer des victoires à Roubaix, Vénissieux, Creil et au Tampon à La Réunion, mais il échoue à Rennes, Toulouse et Limoges, malgré des unions avec la gauche. Ailleurs, des candidats et candidates ont tout de même pu sauver leur siège grâce à des alliances avec LFI. C'est le cas à Nantes notamment, où la socialiste Johanna Roland est réélue pour un troisième mandat.
Globalement, si on doit noter un grand changement, c'est la disparition de la vague verte de 2020.
Et oui Eva, il ne reste plus grand chose du raz-de-marée écolo d'il y a 6 ans. Les écologistes ont perdu plusieurs grandes villes, Besançon, Strasbourg, Poitiers, Bordeaux, remportées par le macroniste Thomas Cazenave, et Annecy, désormais aux mains d'un autre fidèle de Macron, l'ex-ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Antoine Armand. Si on reste du côté des macronistes, zoom sur les anciens premiers ministres, Édouard Philippe remporte un troisième mandat au Havre, tandis que François Bayrou perd peau face à la gauche. Le coup dur pour la droite, c'est bien sûr l'échec de Rachida Dati à Paris, on en a parlé, mais on note plusieurs victoires des Républicains dans des villes moyennes comme Tulle, Limoges, Toulon. Le plus marquant, c'est le basculement à droite de plusieurs bastions sociaux comme Besançon, Clermont-Ferrand, Cherbourg, Alençon et bien sûr Brest.
Brest bascule à droite, qu'en est-il du reste de la Bretagne ?
C'est bien une vague bleue qui frappe notre région, on l'a dit donc, François Cuillande perd Brest, tenu par la gauche depuis 1989, malgré une alliance avec LFI. Score de Stéphane Roudeau, nouveau maire de droite, 57% des voix. Saint-Brieuc, Lamballe et Concarneau basculent aussi, tandis que Lorient et Saint-Malo restent à droite. De son côté, Rennes résiste, la socialiste Nathalie Appéry conserve la mairie pour un troisième mandat, après avoir refusé une alliance avec LFI.
Merci Héloïse. Taux de participation à ce deuxième tour en France, 57%. En hausse par rapport à 2020, on comptait 41% de participation, mais ça ne compte pas vraiment, on était en plein Covid.
Ah oui.
En réalité, la participation est en baisse si on regarde les chiffres de 2014, qui annonçaient 62% de votants et votantes. Le procès des membres présumés de la DZ Mafia s'ouvre aujourd'hui à Aix-en-Provence. 6 hommes sont jugés pour un double assassinat survenu en 2019, avant même la naissance officielle de l'organisation. Les victimes ont été exécutées dans leur sommeil dans un hôtel du secteur de Plan de Campagne. L'affaire concerne notamment des trafics de stupéfiants et des faits de violence. Ce procès très attendu doit durer plusieurs semaines. Il mobilise d'importants moyens judiciaires et sécuritaires. À Rennes, vendredi, un quartier a été confiné après la découverte d'une bombe de 250 kg de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été retrouvée sur un chantier près d'une école dans le quartier Sud-Gare Saint-Hélier. Un périmètre de sécurité a été mis en place et des habitants ont été évacués. Les démineurs sont intervenus, la bombe a été désamorcée et le périmètre levé. La qualité de l'air reste mauvaise ce lundi dans toute l'Ille-et-Vilaine. Selon Airbraise, les niveaux de particules fines dépassent les seuils recommandés. Ces polluants, liés notamment au trafic routier, sont nocifs pour la santé. Le réseau STAR prolonge ainsi son pass spécial pour encourager les transports en commun. Aujourd'hui, il est donc possible de circuler toute la journée sur l'ensemble du réseau bus et métro pour un tarif de 1,70€. Les autorités recommandent de limiter les efforts physiques, surtout pour les personnes fragiles. À Rennes, certains artistes refusent de voir la culture s'éteindre. Selon le collectif Odd Side, la scène culturelle s'essouffle et les lieux qui la font vivre disparaissent. Alors, ils ont décidé de faire du bruit. Leur idée, organiser une série de concerts pour redonner à la culture sa place dans les bars rennais. Le 24 janvier, la cave de l'usine a vibré. Estelle s'y est rendue.
Les basses résonnent dans la salle, les corps se serrent devant la scène. Le public chante à l'unisson, venu soutenir l'initiative.
C'est vraiment Rennes, culturellement, c'est incroyable et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre ça, ce serait vraiment dommage.
Je trouve que Rennes, c'est une ville où on peut commencer la culture. Et je trouve que c'est rare maintenant en France et ça me tenait à cœur de venir les soutenir.
Odd Side est un collectif artistique basé à Rennes. Il réunit des artistes aux univers éclectiques, mais aussi des photographes, designers et stylistes. Et ce soir, à l'usine, à Venesslay, vont faire du bruit.
On est tous les deux dans un canapé et puis on s'apprête à aller en soirée. Et donc du coup, on fait un peu un before de la soirée. Et tout le long du set est construit sur le before.
C'est comme une grande discussion avec nos morceaux qui sont joués.
C'est ça.
L'idée de faire du bruit est née dans un autre bar associatif rennais, La Bascule.
Bah, il nous a avoué en gros que c'était difficile en ce moment. Et que la police venait régulièrement, donc du coup qu'ils devaient un peu se restreindre au niveau de ce qu'ils faisaient, fermer plus tôt, et que forcément il y avait de moins en moins de gens à venir.
Ça s'était accompagné aussi de menaces pour sa boîte aux lettres. On en a parlé au bar Le Gazo et qui avait les mêmes soucis.
Donc nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on passe un événement dans ton bar et puis on a appelé cet événement du bruit.
Après ce premier événement en juin, le collectif décide de lancer une tournée dans plusieurs bars rennais. Et les lieux répondent présents.
Que des bars nous ont carrément contactés. Là, on s'est dit, ok, donc c'est que ça a plu. Il y a peut-être une carte à jouer. On a eu des rendez-vous avec les 610. Oui.
Ouais, directement.
Et après, on a eu aussi un contact avec Marie Mesmer. Et on a pu échanger d'ailleurs autour de ce sujet et s'est trouvé des solutions à cela.
L'usine a accueilli la soirée. Eux aussi, concernés par les difficultés des bars indépendants.
Nous, concrètement, on arrive à s'en sortir. On a eu des problèmes, forcément. On a l'impression d'être guetté par rapport à ça. Et il y a l'impression que c'est de plus en plus strict.
Le concert se termine dans une ambiance électrique. Dans la foule, un dinosaure gonflable entouré des artistes danse sous les encouragements du public.
Un reportage de Estelle Vasquez. La tournée du collectif Odd Side continue dans les prochaines semaines avec une dernière date de prévue en avril au Chat Toqué. Leur objectif, continuer à faire du bruit pour que la culture rennaise ne s'éteigne pas.
C'était le flash d'Eva, merci à toi, quel bonheur de t'entendre de nouveau dans 6 heures avant
minuit. Ça fait plaisir Héloïse, s'il te plaît.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi,
la radio sauvage.
Minuit.
C'est vrai.
Plus personne.
6h avant minuit.
On passe à l'interview. Ce soir, Ulrich est aux manettes de l'interview. À toi.
Merci Héloïse. Bonsoir à tous. Ce soir, je suis avec Elliot Lorenzo Gott. Bien sûr, Camille Carteron et Léa Bouinfi sont tous étudiants et étudiantes du Master de métier art de l'exposition Rennes 2. Depuis sa création, il faut dire que les étudiantes et étudiants de ce master réalisent chaque année un projet dédié à une ou un artiste contemporain. Cette année, il ou elle organise le solo show de l'artiste plasticien Romuald Jandelot intitulé Bonne Chère à l'église Noire Priant de Rennes du 26 mars au 25 avril de 2026. Et il faut dire que cette exposition est pensée comme un banquet cette année. Les publics seront invités dans une installation de repas de famille à huis clos, à la fois intime et théâtrale. L'exposition sera également ponctuée de plusieurs événements. C'est justement pour avoir plus d'informations à propos que nous recevons, bien sûr, dans cette émission, l'équipe d'organisation. Bonsoir, chers invités. Merci d'être à CIE de la radio.
Bonsoir.
Bonsoir. Et déjà, je commence par qui ? Je commence justement par les amis en face. Je commence par Elliot. Elliot, que je sens très énergique, prêt à répondre à nos questions, bien sûr.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et déjà, à côté de vous, c'est Léon.
Oui.
Léon, bien sûr, également, que je vois très contente d'être dans 6 heures avant minuit. Léon, merci d'être là. Est-ce que déjà, vous pouvez nous présenter justement votre master, le master métier et art de l'exposition et ce qu'on peut retenir de ses objectifs principaux ?
Alors, le master métier et art de l'exposition, c'est un master à la fois professionnalisant et théorique, dans lequel, sur 2 ans, du coup, on va apprendre à monter des projets d'exposition. Et c'est surtout sur la deuxième année que ça devient concret et où on collabore avec un ou une artiste contemporaine pour monter une exposition d'art.
D'accord. Et déjà, justement, quand on parle de ce master, il y a sûrement des compétences que vous développez. Et c'est l'une de ces compétences, justement, qui vous amène à faire une exposition d'art, justement. Est-ce que Elliot peut nous parler un peu de ces compétences que vous avez à développer lors de ce master-là et tout ?
Oui. Alors, tout à fait. Le master, vraiment, il nous forme à organiser des expositions, donc au commissariat d'exposition. Mais en fait, on est répartis un peu, toutes les tâches sont réparties à travers la promo. On est organisé en différents pôles, donc certaines travaillent en régie, d'autres sur la programmation culturelle, et puis il y a bien sûr la partie communication et administration à gérer. Donc en fait, au fur et à mesure de l'année, on développe un peu chacun des compétences aussi très spécifiques par rapport au domaine dans lequel on va travailler.
Justement, puisqu'on parle de compétences spécifiques, Camille qui est à ma droite, déjà, l'une de ses compétences est justement l'exposition. Est-ce que vous pensez que cela occupe une place vraiment importante dans votre pratique professionnelle durant ce master-là ?
Oui, c'est sûr, parce qu'on est 13 et donc le commissariat, c'est vraiment quelque chose qu'on va gérer à 13. C'est après, en fait, c'est les autres compétences, donc comme a dit Elliot, administration, communication, etc., qui sont divisées. Mais c'est vrai que le commissariat, c'est quand même le cœur du master, et c'est vraiment la compétence principale qui est développée et qu'on a développée du coup avec Romuald Jandolo, qui est l'artiste de cette année.
Ok. Je le disais tout à l'heure que cette année, vous avez choisi de travailler avec l'artiste plasticien Romuald Jandolo. Déjà, en quoi ce projet d'exposition s'inscrit justement dans le cadre de votre master ?
Alors, c'est en fait, chaque année, c'est l'équipe pédagogique qui fait le choix d'un artiste. Qui choisissent pour... Enfin, souvent, c'est des expositions qu'ils ont vues, qu'ils ont aimées, et donc ils contactent l'artiste. Et voilà, il faut trouver un artiste qui accepte de travailler avec nous, parce qu'on est quand même étudiant. Le but, c'est d'apprendre aussi avec lui. Et du coup, oui, c'est vraiment central. Enfin, cette année, en tout cas, vraiment, le master, ça a été vraiment beaucoup de communication avec lui pour construire l'exposition ensemble.
D'accord. Justement, parlant de cette année, vous avez décidé de présenter un concept intitulé Bonne Chère. De quoi il s'agit véritablement ? Est-ce que vous pouvez nous présenter aux auditeurs de CELAB Radio ce concept ?
Alors, Bonne Chère, c'est une expression qu'on utilise qui signifie en fait bien accueillir ses convives, ses invités autour d'un repas, mais aussi faire bonne figure lors de ce repas. Donc pour nous, ça a tissé très bien en fait tous les enjeux de cette exposition. Lorsqu'on réunit beaucoup de personnes autour d'une table, que ce soit des amis ou souvent des membres de la famille, et puis qu'en fait sous ces jolis visages, etc., des fois aussi se cachent beaucoup de secrets, de non-dits ou de malaises. Et donc, bonne chère, pour nous, c'était une expression vraiment qui illustrait cette envie de faire bonne impression, de bien recevoir, alors que parfois se trame aussi des choses un peu plus difficiles lors de ces moments de convivialité.
D'accord. Et justement, parlant quand même de cette exposition, on a dit tout à l'heure que vous présentez cette année l'artiste plasticien Romuald Jandolo. Et si je comprends bien, c'est l'équipe pédagogique qui a quand même décidé de... Est-ce que vous avez quand même des raisons de dire ce qui peut expliquer quand même le choix porté sur cet artiste ? Pourquoi pas un autre et tout, déjà ?
Pourquoi pas un autre, ça je ne sais pas, mais je sais que c'est un artiste qui a beaucoup plu du coup à notre équipe pédagogique et qui en même temps assez reconnu et émergent sur la scène française, ce qui permet d'avoir une certaine visibilité aussi sur le projet du master.
Je pense qu'il est aussi, il construit des expositions sur le principe de l'installation. Donc c'est pas juste des œuvres, enfin c'est vraiment l'exposition est une chose en soi qui tout fonctionne ensemble. Et je pense que ça c'est quelque chose qui intéressait aussi beaucoup les profs de nous faire travailler sur cette question-là et de vraiment travailler avec un lieu et un artiste et vraiment tout s'enchaîne et tout fonctionne ensemble.
D'accord. Et déjà, je pense que déjà quand on observe un peu, je pense, Eliott a commencé à le dire tout à l'heure, vous avez choisi la forme d'un banquet. C'est, je peux le dire ainsi, peut-être un peu rare dans le cadre des expositions et tout. Qu'est-ce qui explique justement le choix de le faire sous la forme d'un banquet ? Eliott ou qui prend la question ?
Déjà, c'est lors de discussions avec l'artiste qu'on a aussi établi ce qu'allait être la scénographie et de quelle forme allait se développer l'exposition. Mais je pense que c'est aussi beaucoup lié à l'espace dans lequel on expose. En fait, normalement, le master expose à la galerie Art et Essai de l'Université Rennes 2, et qui est en travaux pour le moment. Donc en fait, depuis l'an dernier, les promotions de ce master doivent trouver un nouveau lieu d'exposition en dehors des murs de l'université. Et cette année, ça se passe dans une ancienne église. Donc... qui se trouve gérée par l'association Noir Brillant, qui donc a un peu aussi impulsé cette idée de dresser une grande table sous l'église. Il y avait vraiment quelque chose un peu entre le sacré et la bonne franquette que l'artiste a voulu développer. Et pour lui, c'était vraiment une occasion à saisir. Et je pense que voilà, une belle occasion.
D'accord. Et déjà, vous avez commencé à le dire, j'en venais, l'église Noir Brillant qui va abriter quand même cette exposition-là, vous l'avez choisie. Est-ce que déjà, vous pensez que ce lieu influence un peu sur l'exposition, au-delà du caractère selon lequel il n'y a pas vraiment la possibilité de l'exposer à Rennes de tout? Est-ce que ce lieu vient quand même apporter un plus ou bien du nouveau dans le cadre de cette exposition-là et tout ?
Mais je pense que oui, le lieu est complètement au cœur de l'exposition. On n'aurait pas pu faire la même exposition ailleurs. Et parce que vraiment, en fait, au tout début du projet, l'artiste nous a vraiment... on a vraiment fait avec lui beaucoup de recherches sur le passé de cette église. Et enfin voilà, c'est vraiment, vraiment lié avec l'église, le bâtiment en lui-même. Enfin voilà, on a... L'historique de l'église se retrouve aussi un petit peu, pour la petite anecdote, avant c'était un entrepôt des illuminations de Noël de la ville de Rennes. Et vous verrez dans l'exposition qu'en fait on retrouve des illuminations. Donc c'est vraiment, je pense que l'église c'est vraiment sa source d'inspiration première. Et ouais, le lieu joue beaucoup.
D'accord. Et aujourd'hui, quels sont, puisque vous avez l'habitude de revenir là-dessus chaque fois, quels sont aujourd'hui les rapports que vous tenez avec l'artiste en matière de collaboration, si on peut le dire ainsi, dans le cadre de cette exposition-là et tout? Juste là, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que la collaboration avec lui, ça se passe très bien et tout?
On a eu l'occasion de beaucoup échanger avec l'artiste, ça c'est une chance, et il a été très présent avec nous cette année pour qu'on co-construise réellement l'exposition à 100%. Et malgré certains désaccords sur des sujets, on arrive toujours à trouver une entente et à respecter les positions de chacun. Donc ça, c'est assez enrichissant.
D'accord. Quand on parle d'exposition, il faut parler de public et tout. Vous attendez sûrement un public large, que ce soit de Rennes 2 et que ce soit au-delà de Rennes 2, c'est-à-dire le public rennais et de sa métropole, si je peux le dire ainsi et tout. Quel rôle quand même ce public-là aura à jouer, notamment dans le cadre de la réussite de cette exposition que vous organisez?
Bah c'est sûr que contrairement aux années passées où vraiment l'exposition était implantée à l'université, cette fois-ci, ce n'est pas du tout le cas. Donc on a dû réfléchir à plein de nouveaux moyens aussi de faire connaître l'exposition, de regarder aussi le quartier dans lequel on s'implante, donc le quartier de Saint-Laurent, pour savoir quel public on pouvait viser. Et là, le pôle de programmation culturelle de notre master a vraiment réfléchi à organiser des ateliers, des visites, pour vraiment faire vivre aussi cette exposition. Et je pense que c'est tout l'enjeu qui se trame dans Bonne Chère. Ça va être vraiment de faire revivre une présence aussi par l'apport du public qui vient circuler entre les œuvres autour de cette table de banquet et réveiller un peu cette scène figée.
D'accord. Je pense que vous avez commencé à le dire tout à l'heure, la répartition des rôles et tout. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de manière précise comment les rôles sont répartis? Je pense que là, nous sommes avec l'équipe suivante de communication, déjà et tout. Mais déjà, au fond, vous avez parlé de communication, vous avez également parlé de, d'une équipe tout à l'heure qui s'occupe quand même de l'exposition elle-même dans tous ses contours et tout. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment, au sein de votre master, les équipes sont constituées et tout?
Alors du coup, pour le master, on est divisé en 5 pôles différents, okay. Enfin plutôt 4 et un cinquième pôle qui vient s'ajouter après, dans lequel on peut, enfin qui est le pôle édition, et du coup c'est des personnes de différents pôles qui se mettent dedans.
Okay.
Là aujourd'hui, on a Camille qui est au pôle régie et Elliot et moi qui sommes au pôle administration, super. Pour le coup. Et donc en plus de ces deux pôles-là, donc, on a le pôle programmation culturelle et médiation qui va vraiment s'occuper de démarcher les alentours, de trouver des animations, de programmer plein d'activités à faire autour de l'exposition. Et on a aussi du coup le pôle communication qui s'occupe de faire parler de l'exposition et par exemple d'organiser ce genre d'événement.
Ok, merci. Et parlant d'activités autour de cette exposition, quelles sont les activités en amont et en aval de cette exposition-là, de manière générale? Est-ce que déjà, qu'est-ce qui a été fait juste là en matière d'activités? Et qu'est-ce que vous prévoyez faire également par la suite et tout, Camille?
Alors là, le premier événement qui arrive, c'est une projection au tambour le 25 mars, donc de deux films. Le festin de Babette et le charme discret de la bourgeoisie. Donc ça, c'est le premier événement qui est même avant le vernissage. Et ensuite, on a plusieurs projections. On a des projections sur le campus, le 7 avril, par exemple. On a des performances qui viennent activer l'exposition tous les dimanches. Et on a aussi une soirée de finissage le 25 avril, donc, qui sera aussi une performance, mais avec plus de choses. On a des lectures, des récitals, voilà. On vous invite à regarder tout ça sur le site de notre master et sur nos réseaux sociaux aussi.
D'accord. Justement, parlant d'exposition, justement, vous faites face à des difficultés. Quelles sont quand même ces différentes principales difficultés rencontrées dans la mise en place de ce projet-là? Et ça a pris techniquement combien de temps?
C'est un projet qui s'étale vraiment sur toute l'année. D'accord. Donc dès la rentrée, en fait, on va commencer à travailler aussi sur le contenu théorique en fait, de l'exposition pour pouvoir un peu avoir du grain à moudre et avancer sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut dire aussi. Et ensuite, on va dire que c'est plutôt dans la seconde partie de l'année que les contraintes un peu techniques arrivent, où on va commander du matériel de régie. Et par exemple, la semaine dernière, on était en montage. Donc là, il y a plein de nouvelles contraintes qui arrivent, vraiment des contraintes comme on les imagine, par exemple, où on tente d'accrocher quelque chose en hauteur, et puis ça passe pas, c'est trop lourd, donc il faut faire des sélections. Sur les œuvres aussi, il y a un choix qui doit être fait pour que ça soit cohérent, etc. Donc c'est des contraintes à la fois, on va dire, techniques, budgétaires, mais aussi...
On va faire face à ces contraintes-là, techniques et budgétaires, de manière logistique et tout.
On en discute toutes ensemble et parfois aussi on laisse trancher les personnes qui ont plus travaillé sur le sujet parce que c'est des personnes qui savent ce qui doit être juste. Voilà.
D'accord. L'une des dernières questions dans le cadre de cet entretien, est-ce que déjà cette exposition elle est ouverte au public? Et si oui, justement, quel appel vous avez à lancer à l'endroit de ces étudiants-là qui sont à l'écoute, ou carrément le public de Rennes et de Rennes Métropole qui sont justement à l'endroit de cette émission? Écoute. Ouais.
Eh bien, nous ouvrons l'exposition à 18h jeudi prochain. Donc, on vous attend très nombreuses et nombreux au vernissage, mais également pour tous les autres moments. L'église sera ouverte tous les après-midi du mercredi au dimanche, de 14h à 18h, et il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir, pour répondre à vos questions aussi, ou simplement vous parler un peu plus aussi de notre formation, de l'artiste, etc. Et on vous attend aussi sur tous les autres événements que nous avons prévus dans l'église et en dehors de l'église.
D'accord. Voilà. Merci à vous. Nous sommes à la fin de cette séquence invitée de votre émission 6h avant minuit. avec mes trois invités, Eliott, Camille et Léon, étudiants du Master 2, métier et art de l'exposition des Rennes 2. Il était question de venir sur les contours de l'exposition Bonnechère qui les organise pendant un mois, c'est-à-dire du 26 mars au 26 avril 2026. Cette année, ils organisent le solo show de l'artiste plasticien Romuald Jandot intitulé Bonnechère à l'église Noir-Briand. Pensez comme banquet, cette exposition invite les publics à une installation d'un repas en famille à huis clos, à la fois intime et théâtrale. L'exposition sera également ponctuée de plusieurs événements dont il a été essentiellement question dans ce moment de radio que nous remercions d'avoir suivi. Merci à Héloïse de nous avoir donné cette opportunité.
Merci.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
On passe à la partie chronique. Ce soir, c'est une nouvelle chronique dans la sauce et c'est Cesse qui vous embarque en immersion pour décortiquer une pratique culinaire tendance.
Cette semaine, on va meal prep. C'est-à-dire qu'on va préparer nos repas de la semaine en avance, de sorte à optimiser le temps passé en cuisine, l'utilisation des électroménagers, tout en cuisinant des produits frais et des plats équilibrés. Bim bam boum, on allie économie, productivité et enjeu santé. Alors vite, enfile ton tablier, aiguise tes couteaux, on est parti. Tchac tchac tchac, tu me tailles l'oignon, on carde les blettes, blanc dans la poêle, on laisse la cuisson se faire, le temps de battre les œufs avec du fromage blanc et de la muscade, et toc, on revient remuer notre poêlée, hop là, on déclasse avec une sauce soja, et zou, pendant que ça réduit, on va vite foncer la pâte feuilletée dans le plan à tarte, et splot, tu me balances tout ça, ça part à 180 degrés, chaleur tournante pour 40 minutes. Et on va quand même pas laisser le four tourner à moitié vide. Chop chop, la dernière butternut de la saison. Envoie une poignée de gousse d'ail, un peu de carottes, quelques patates, un filet d'huile d'olive et du gratin, et hop, ça part sur une plaque sous ta quiche végétale. Et pendant que ça cuit, on sort la mandoline, ou le coutelas, et on hache menu le chou rouge, ou le chou blanc, ou le chou chinois, ou même le chou de Bruxelles, va. Qu'importe, tant que tu me haches tout ça bien finement, tchac tchac tchac, et ça part avec du citron et du sirop d'agave, direct dans le tube, zoupla, on le mangera en salade, en variant les sauces et les condiments, histoire de pas se lasser. Qui des petites olives, qui de la feta émiettée, qui des graines toastées, ça te fera des fibres et des oligo-éléments pour toutes tes entrées de la semaine, ça c'est fabuleux. Et si la pâte feuilletée ou nos légumes rôtis n'ont pas fini de dorer, crois-moi pas que ça soit l'heure de se reposer. Profites-en plutôt pour lancer un overnight oats. Rien de plus simple pour faire ce porridge sans cuisson. Hop, une poignée d'avoine par portion et plouf dans le lait végétal de ton choix et ziou, tu me sucres ça avec un sucrant naturel, comme notre bon vieux sirop d'agave précédemment cité, ou bien une pointe de miel. Et bam, tout ça, ça part dans un contenant hermétique, direction le frigo pour la nuit, et tada, demain matin, tu me dégusteras tout ça avec des petites amandes ou des tranches de pommes, et ce sera so healthy pour débuter ta journée avec ton petit chai latte. Et vu que c'est vite fait bien fait, le four sera toujours en train de tourner. Pas le moment de se relâcher. Quoi faire ? Ah, tiens, la vaisselle. C'est qu'on en a fait partout avec cette tornade de meal prep. Allez, on s'y met. Et pendant que l'eau mousse et que l'éponge frotte, peut-être que l'adrénaline redescend un peu. Tes mains plongées dans l'eau chaude se décrispent enfin, et tu demandes « Mais pourquoi tout ça ?» C'est vrai que la vue d'un frigo rempli de Tupperware parfaitement portionné et bien rempli, ça a quelque chose de satisfaisant et de rassurant. Je ne vais manquer de rien. Je maîtrise la situation. Je suis préparée à toutes les éventualités. Du moins, je crois. Pourquoi une fois dans ma cuisine, je deviens à la fois le manager et la caissière du Lidl ? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps gagné ? Me reposer ? Ou encore plus optimiser le moindre centimètre carré de ma vie ? Ting ! Ah tiens, c'est prêt. Bon, on verra plus tard pour relire Marx. À table.
Evelyn, une super chronique. Merci, Cess. Tu m'as donné trop faim. Par contre, il faut trouver quelqu'un pour la vaisselle, parce que moi, j'aime pas ça.
Il y en a qui ont des lave-vaisselle, mais il faut l'équipement et la place et,
c'est pas fou.
Et l'argent, parce que les charges.
Ouais, puis il n'y a pas tout qui passe dans le lave-vaisselle. Hein.
C'est bien vrai.
Merci, Cess. On va jeter une petite oreille sur le répondeur.
Le téléphone.
Allô, allô.
la radio sauvage.
Vous ne nous avez pas laissé de message vocal ce soir. Je ne suis pas contente. Réparez ça, dès maintenant. 02 30 96 25 35. On vous écoute. Dites-nous tout. On diffuse ça à la fin de l'émission. Petit instant promo avant de se quitter. Si vous avez envie de vous initier au mix, que vous êtes une femme ou faites partie d'une minorité de genre, on vous propose de participer à la deuxième édition du projet Baby DJ. C'est en mixité choisie, donc sans hommes cisgenres. Et vous pourrez participer à 3 journées d'initiation avec Lula 666, Vanadis et Pulco Turbo des DJ Rennaises. Et tout ça, c'est gratuit. Envie de vous inscrire, des questions? Ça se passe sur commission avec 2m-antisexisme@proton.me. Merci Eva et Cesse pour la technique. C'était à deux ce soir. À demain dans 6 heures avant minuit.
Exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h sur Syllab, la radio sauvage.